Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Cube. Yasmine Abdel-Fadel. Une animatrice hors norme, aussi percutante que l'actualité. Grande stratège, elle décortique les messages et analyse les non-dits. Méthodique, elle regarde chaque détail à la loupe. Surprenante, improbable, décapante. Elle ne laisse personne indifférent. Yasmine Abdel-Fadel.
Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en cette journée de catastrophe à Baltimore. Imaginez un bateau qui est chargé de containers qui a directement foncé dans un pont qui est important et le pont s'est effondré comme un château de cartes. Il y a des personnes qui sont encore recherchées, il y a des personnes qui sont blessées. Il doit y avoir plusieurs vies malheureusement qui ont été perdues. Et là, on regarde ça puis on se dit comment est-ce possible? Là, il y a plusieurs scénarios, notamment de la panne électrique qui aurait causé le manque de contrôle de ce bateau-là. Mais toujours est-il de voir les images à quel point un pont peut tomber finalement avec une seule un accident de bateau, là, tu sais, on commence à se poser la question, puis il y a plusieurs, je sais que plusieurs personnes, notamment de Québec, qui se posent la question quant au pont Laviolette qui a pas l'air d'être très, très solide. Puis là, quand on regarde ça, on se dit, ben, ça prendrait rien pour qu'on vive un drame similaire. C'est pas la première fois que des bateaux, que des ponts s'écrase de la sorte. On se rappelle en Italie, à Gênes, il y a quelques années, un pont, encore une fois, qui s'était effondré, qui avait fait plusieurs morts. J'espère que les familles qui se posent des questions, qui ont des personnes qui sont portées disparues, là, puis qui attendent des nouvelles, vont avoir des nouvelles le plus rapidement possible. Évidemment, plus les heures passent, plus le bilan va continuer à s'alourdir. Mais on parle encore de 6 personnes qui sont portées manquantes. Bienvenue à Cube, bienvenue à votre nouvel épisode.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
J'avais vu un grand spectacle. On en a un plus grand encore.
Luc Lavoie.
Écoute, j'ai tellement ri.
Yasmine Abdel-Fadel.
C'est une pièce d'anthologie.
La rencontre, Lavoie Abdel-Fadel.
Les projections de Québec 125 donnent 11 sièges pour la coalition Avenir Québec, quatrième parti représenté à l'Assemblée nationale. Après un PQ à 69 sièges, les libéraux à 26 sièges, il y a Québec solidaire qui aurait quelque chose comme 14 sièges. Et finalement, 11 sièges pour la coalition Avenir Québec. Luc, est-ce que c'est un cauchemar pour la CAQ ou est-ce que c'est quelque chose duquel on peut se relever?
C'est certainement un cauchemar. Peut-on se relever d'un cauchemar? C'est ça.
J'espère.
C'est ça vraiment le problème, en fait. Bon, le week-end dernier, c'était les funérailles de M. Mulroney. Ça fait que j'ai eu de nombreux amis du Canada anglais qui étaient ici, à Montréal. Puis des gens qui ont fait de la politique ou qui ont tourné autour de la politique. Puis ils voulaient que je leur dise ce qui se passait avec Legault, comment ça allait, tout ça. Quand je leur disais la vérité, là
ils sont pas tombés sur quelqu'un de bien...
Quand tu leur dis la vérité, tu dis, écoute, ils sont partis de 42%, puis ils sont tombés à 21% en l'espace d'un an, en fait, en l'espace de 15 mois, plus ou moins. Moins que ça, même, attends. 15 mois, à peu près. Là, mais voyons donc, je parle de gens qui ont fait beaucoup de politique. Jamais vu une débâcle de ma vie. Puis en plus, tu le sais, élu en 2018... Tous les sondages, c'était le premier ministre le plus adoré.
Pendant la pandémie, oui.
Ben oui, puis même après, tu sais, puis la loi 21, où il avait fait une ovation debout pour dire « Enfin, nous du Québec, on se tient debout. » Puis là, on est supposé, comprends-tu, d'être très heureux parce qu'on a enlevé des droits à des à des concitoyens. Puis là, on dit, hey, c'est la preuve qu'on sait se tenir debout contre quoi? Alors, à un moment donné, toutes ces niaiseries-là, au début, qui ça faisait plaisir aux gens, là, tu sais, parce que les voiles islamiques, ça leur tapait sur les nerfs, puis ils savaient bien que ça changeait rien.
Moi, j'aime pas les cheveux roses.
Moi non plus.
Je veux une loi 22.
Moi, ce que j'aime pas, c'est les casquettes de baseball.
Ah, loi 23.
Hein, c'est ça, c'est le temps qu'on s'est...
Je regarde, j'ai des idées, je suis une machine à des projets de loi.
Mais écoute, c'est... Moi, je dirais que... Je tourne dans la politique depuis le début des années 70. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu une affaire comme celle-là. Et en plus, quand ça s'est effondré, on utilise très souvent la métaphore du château de cartes. Ben, c'était le cas. C'était un château de cartes. Boum! Ça a tombé d'un coup. Puis moi, est-ce que j'étais vraiment surpris? Non. Parce que si Legault a tenu le coup si longtemps, c'est à cause de la pandémie. N'eût été de la pandémie, il aurait commencé à s'enfarger plus tôt. Il aurait eu son
problème. On lui aurait pardonné moins souvent.
Oui, puis il aurait eu son problème de troisième lien. Qu'est-ce que tu veux? Ils ont fait campagne en le promettant.
Là, c'est-tu le troisième lien, la cause de tout ça?
Ben, c'était le déclencheur. C'est le trigger, comme on appelle. Parce que la question du troisième lien est venue vers le mois de mars-avril. Alors qu'on avait quand même traversé la Société de l'assurance automobile du Québec. Là,
c'est pas... vrai.
C'était pas, hey, écoute, mon Éric Kerr qui va donner une entrevue à la télévision pour dire je mériterais des
parle
des
pas félicitations. D'Éric Kerr. Parle pas d'Éric Kerr, il se lance dans la reconnaissance faciale.
Hey, ça me fait peur, puis je te garantis que la plupart des Québécois, quand t'as vu ce gars-là donner cette entrevue-là qui a été reprise over and over and over again.
Je mérite des.
Ben oui, des félicitations, parce que moi, tu comprends, mon petit morceau de l'équation, c'était petit, puis ça a bien été. Ben, écoute, là, les gens qui gelaient dehors à moins 20 pour aller... Ils pouvaient pas prendre possession de leur voiture qu'ils venaient d'acheter. Ils n'étaient pas capables d'avoir d'immatriculation. T'es le gouvernement...
Mais là, c'était juste changer un logiciel.
Ouais. Puis là, après ça, il faut dire que ça s'était accompagné. Le gouvernement se fait réélire avec... une solide majorité à la Chambre, en tout
90.
Cas. 90. Et puis là, c'est ministre vedette. La vedette, c'est Dubé à cause de la pandémie où il a bien fait.
Il est très apprécié.
Il communiquait bien et tout. Il a déposé un projet de loi avec 1200 paragraphes. Une brique, là, tu sais. Mais c'est quoi, c'est quoi? Tu regardes ça, là? Si quelqu'un comprend qu'il m'appelle, parce que j'en ai besoin.
Santé Québec.
C'est comme un organigramme. Alors, Dubé s'est perdu les deux pieds dans un organigramme, puis il a fait juste ça pendant toute l'année. Pendant ce temps-là, Pierre Fitzgibbon, lui, ça dépendait qu'est-ce qu'il prenait ce matin-là. Un matin, c'était il y a trop d'auto, puis l'autre matin,
c'est... Part à laveuse à minuit.
Ben oui, c'est ça, puis...
Northvolt.
Northvolt, écoute, vous êtes trop niaiseux pour comprendre à quel point c'est bon. D'ailleurs, pas. Tes appuis, toi, dans ça.
Ben puis, oui, moi, j'appuie
Northvolt. Moi, je trouve que c'est un projet tellement farfelu que je te jure, le montant que tu voudras, qu'il n'y aura jamais d'usine Northvolt à cet endroit-là. Je te le garantis.
Mais...
Alors, ils ont donc continué sur le même...
À part Northvolt, ils ont fait quoi?
Ben, à part Northvolt, ils ont fait leur connerie du troisième lien.
C'est quand la dernière fois que tu as entendu le gouvernement parler d'aéronautique? On était supposé être la troisième capitale de l'aéronautique après Seattle et Toulouse.
Ouais. On a eu quelques petits ratés, je pense. C'est vraiment...
Tu parles du bombardier?
Puis après ça, ben, t'as eu des élections dans Jean Talon. Puis là, c'est là... Et là, tu vois le chef. C'est dans ce temps-là que tu as besoin d'un chef. Quand ça va mal, tu as besoin d'un chef qui dit « Regarde, suivez-moi, je sais où je m'en vais, tout ça. » Il arrive devant un micro, puis il dit « Ben, j'ai de la peine. » Il y a de la peine.
Là, il a déterré le troisième lien.
Là, il a décidé. Ben, j'avais mal compris le message. Je pense qu'on va faire renaître le troisième.
10 milliards de dollars plus tard.
Le troisième lien. C'est tellement ridicule.
Mais pas...
La façon dont ils s'en sont retirés, c'était épouvantable. Ensuite, il arrive au début de l'année, puis il dit, bon ben, là, après avoir pris de longues vacances, je reconnais qu'il y avait droit, là.
Puis besoin.
Il revient, là, puis il annonce que dorénavant, ils vont être disciplinés. La discipline s'impose. Dès le lendemain, ils ont les deux pieds dans un marécage épouvantable concernant des cocktails puis des affaires. Pour au lieu de lancer la couverture par-dessus puis d'arrêter l'incendie,
Ils ont continué d'alimenter ça.
Ils ont alimenté ça eux-mêmes. Les crises de nerfs de Geneviève Guilbeault, Legault. Imagine, j'ai vu Jean Charest en fin de semaine aux funérailles de M. Mulroney. Puis là, tu sais, Jean Charest, bon. Il dit, il y a des limites. Y a-t-il quelque chose de plus écœurant que de se faire traiter de Jean Charest? C'est le premier ministre qui a dit ça.
À un autre premier ministre qui...
Mais non, il disait ça en marchant, là, il s'en
venait. Non, mais c'est ça, mais il l'a dit à propos de quelqu'un qui lui a précédé. Là, la moindre des choses, c'est de respecter l'institution qui est le bureau du premier ministre.
Il a été élu 3 fois, Jean Charest, comme premier ministre du Québec, quand même. C'est pas si mal, hein? Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'on a vu la vacuité, le vide qui accompagne l'histoire de ce parti. T'as un gars qui s'appelle Legault, qui se trouve de son goût. Il était rentré en politique, je ne l'ai jamais trouvé bon. Il n'a jamais été vraiment frappant ou quoi que ce soit. Puis à un moment donné, il se crée un parti, puis il n'y a aucune base militante. C'est lui qui trouve les comtés où il va mettre des vedettes. Puis là, soudainement, il découvre l'identitaire.
Mais Luc, j'ai une question à te poser.
Oui, oui.
Imagine, il y a des élections demain matin. Oui. Il y a 11 sièges, oui. 20 % des votes.
Oui.
Il a arrêté le financement populaire, lui.
Il n'y aura plus une scène pour l'élection. Écoute, je ris parce que c'est un gouvernement, à la limite, loufoque. C'est carrément loufoque. Ça va dans n'importe quelle direction. Écoute, la négociation avec les syndicats, ça n'avait pas de bon sens.
Et ils ont sorti le chèque et il était comme 1000 chiffres que tu veux.
Ça n'a pas de bon sens, ce qu'ils ont fait. Là, ils ont dit, ben là... On les gardera pas dans la rue, c'est Noël, on va passer pour des méchants. Il a dit, on va vous acheter, êtes-vous content? Là, il peut plus rien faire, aucun de ses projets, il n'y a plus une scène. Il n'y a plus une scène noire qui est là-dedans. Il a tout gaspillé d'une shot, ça n'a pas de bon sens. Puis là, c'est maternel 4 ans, là, je lisais la manchette. Ça se pourrait qu'ils retardent encore ça un peu. Les CPE, c'est
ça
pareil.
Ça existe.
Mais oui, mais c'est quoi, pourquoi ils veulent faire ça? C'est un gouvernement... sans planification, c'est un gouvernement sans vision stratégique des choses.
Mais il n'est pas stratégique, il est parti demander à Legault tous les pouvoirs en à Trudeau.
Puis Trudeau a dit non.
Il a dit non.
C'est pas compliqué.
Ça y est, on n'en a plus entendu parler. ça me ressemble à mes filles, comment, là, quand c'est maman, je peux-tu avoir un Fruit Loops?
Comment,
non, OK.
Comment peut-on penser que Trudeau allait dire oui? Trudeau ou un autre, ou Harper, ou Mulroney, ou Chrétien.
Ils auraient tout, non?
Ben voyons, c'est l'essence même de la souveraineté d'un pays, de dire ma citoyenneté, je la contrôle. Je contrôle les frontières, je contrôle les gens qui y vivent, puis je contrôle ceux qui veulent rentrer.
C'est pas vrai que...
Tu sais, un coup parti, on pourrait donner ça aux municipalités, allons-y.
Tu fais du Québec bashing?
Absolument pas que je fais du Québec bashing.
T'es un anti-Québécois. T'es pas un nationaliste.
Ah, ça, par exemple, là-dessus, tu viens de frapper un coup de circuit. Je trouve le nationalisme l'idéologie la plus rétrograde et la plus dangereuse de l'histoire.
Est-ce que tu préfères le terme patriote? Patriotisme plutôt que nationalisme?
Oui, j'aime beaucoup mieux patriotisme, effectivement, parce que ça ne veut pas dire la même chose.
Non.
Patriotisme, c'est l'attachement à une société, à un pays. Le nationalisme, c'est pas ça. Le nationalisme, c'est j'ai la majorité en nombre, donc je décide pour diable les minorités. C'est pas mal loin, pardon.
Du patriotisme.
On est très loin de ça.
Qui est plus inclusif.
Hein, comment disait-on? Le patriotisme, c'est l'amour des siens. Le nationalisme, c'est la haine des autres. C'est ça la chose fondamentale.
Sur ces paroles profondes?
Ah, extraordinairement profondes.
Luc Lavoie, toujours un plaisir.
Salut.
Yasmine Abdel-Fadel. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité.
L'effondrement du pont de Baltimore nous amène à nous poser des questions quant à l'état de nos ponts, particulièrement le pont La Violette qui lui aussi est... Il nous rappelle là, le pont de Baltimore. On en parle avec Karine Gagnon, chroniqueuse politique, Journal de Montréal, Journal de Québec, directrice adjointe de l'information au Journal de Québec. Karine, est-ce que le monde de Québec sont un peu stressés avec les images qu'on voit partout dans la télé?
Non, il n'y a pas de quoi stresser parce que ce qu'on apprend depuis ce matin, en fait, c'est que contrairement à bien des informations qui ont circulé au cours des dernières années, nos ponts sont quand même dans un état qui évite ce genre d'accident-là. Disons qu'on a prévu le coup. Les piliers sont solides. Il y avait le pont La Violette là, qui causait problème à un certain moment et on a fait de l'enrochement. On s'est assuré que c'était sécuritaire. Puis tu sais, on dit souvent là qu'à Québec, le pont de Québec, jusqu'à quand il peut avoir une durée de vie, mais on sait que en fait, les informations qu'on a, c'est qu'il s'amène jusqu'en 2084, là, la durée de vie de ce pont-là. Bon. C'est sûr maintenant qu'il faut l'entretenir. Là. Ça, c'est comme pour le pont La Porte. Là. T'sais, on voyait que les... je me souviens plus comment on appelle ça, là, mais les structures qu'il y a sur le pont, bon, ils ont dû être réparées. Ils sont en mauvais état, puis il faut faire des travaux là-dessus plus régulièrement. Mais ça, ça fait partie hein, de l'entretien des infrastructures. Ça coûte cher. Mais il faut le faire. Ben il faut le faire parce que sinon on pèle aux générations suivantes. Puis ça, on l'a vu beaucoup avec l'entretien des routes. On continue de le voir aussi. On ajoute des infrastructures souvent, mais on n'est pas capable d'entretenir les infrastructures existantes. Alors tu sais, ça vient faire ressortir le fait que c'est important d'entretenir tous ces ponts, ces ouvrages-là magistraux et qu'on peut pas se contenter là de dire oh, on le fera dans 10, dans 20 ans parce qu'à un moment donné. C'est ça, c'est que c'est la sécurité là qui entre en jeu. Mais tu sais, c'était souvent un argument là de la CAQ là, à l'époque où on tripait bien gros sur le troisième lien puis qu'on l'avait pas, on n'était pas capable de justifier parce qu'on n'avait pas fait les études qui devaient déterminer le besoin et etc. Et on disait, on laissait entendre là que il y avait un danger avec les ponts existants. Moi, je trouvais ça très malhonnête. Et puis par la suite, comme par hasard là, lorsqu'on l'a abandonné, ben ce genre de discours là tenait plus puis on l'entendait plus non plus. Alors voilà, c'est faut faire attention hein, quand on laisse circuler des informations là comme ça pour essayer de justifier un projet qui ne l'est pas jusqu'à maintenant.
On est peut-être un peu moins préoccupé par le pont La Violette, mais on l'est beaucoup lorsqu'on sait que le gouvernement du Québec se lance dans la reconnaissance faciale et que potentiellement Éric Kerr va se mêler de ce dossier-là. Là, particulièrement, là, on a peur. Est-ce que c'est le moment de faire ça? C'est-tu vraiment le chantier à mener actuellement, là, la reconnaissance faciale à SAAQ? On n'a pas encore avalé là, ce qui s'est passé il y a un an.
Ben moi, je pense que c'est absolument pas le moment. C'est mon collègue Nicolas Lachance qui nous apprenait ce matin dans le journal que le projet de reconnaissance faciale est de retour en planification, alors qu'on l'avait mis sur pause dans la foulée du fiasco Saclic, bon, qui a fait en sorte que des gens ont attendu des heures devant les succursales de la SAAQ l'hiver dernier parce qu'on avait mal, planifier finalement les impacts de cette transformation numérique-là. On n'avait pas mis assez de personnel, il a fallu retarder. Après ça, on a reparti les services, on a tout reparti en même temps au lieu d'y aller de manière graduelle. Alors, quand on voit ça, de la manière que ça a été géré, puis il y a eu un rapport hein, là-dessus, on se dit, oh, je suis pas sûre qu'on a envie qu'ils viennent s'amuser là dans les principes de biométrique là, de reconnaissance faciale. Et puis, ben la cloche avait été sonnée il y a 3 ans là-dessus, en 2021, en fait, par la Commission d'accès à l'information qui avait dit que ça prendrait un débat public à ce sujet-là, parce qu'on sait que la reconnaissance faciale, là, on dit qu'on veut s'en servir pour, au fond, faire le ménage dans la banque d'images de la SAAQ, notamment au niveau des permis, pour éviter les doublons, par exemple. Mais on sait que ça peut servir à des individus malveillants. Ça peut aussi servir pour d'autres programmes gouvernementaux. Ben oui. Tu sais, c'est comme une forme d'intrusion dans la vie privée. Il y a un risque, en tout cas, qu'il y ait des débordements. Et là, ben, c'est là qu'on se demande comment ça se fait qu'il n'y a pas eu de débat public, qu'on ramène le projet qui a toujours pas eu de débat public. Et là, c'est ce que les oppositions réclament. Et je pense qu'ils ont raison de s'inquiéter, là, étant donné tout ce qui est soulevé par la commission d'accès à l'information là-dessus, là, sur le fait qu'il y a certains risques quand même. Et j'ai vu que ce matin, en fait aujourd'hui, le ministre Éric Kerr n'a pas voulu répondre aux questions des journalistes. Là. Il est passé tout droit à l'Assemblée nationale, sauf que je pense que le public mérite d'être quand même bien informé relativement à ça, parce que c'est l'utilisation de nos données privées là qui est en jeu.
La question à se poser, c'est pourquoi aujourd'hui relancer cette question-là de la reconnaissance faciale? Parce que juste après les déboires de la SAAQ, on nous a dit, oh non, 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 regarde, on va pas se lancer là-dedans, là, on va essayer, tu sais, on va y aller une étape à la fois, on va pas se précipiter. Et là, on se précipite dans quelque chose où les experts, les commissaires à la vie privée, à la protection de la vie privée. Tout le monde dit attention, faites attention, les risques peuvent être gros. Et nous, on se lance là-dedans pour la SAAQ. Est-ce qu'on peut commencer par numériser les dossiers santé avant de passer à la reconnaissance faciale? On n'est comme pas équipé.
Ben, c'est beaucoup ça là, qu'on observe hein, avec ce gouvernement-là. J'écoutais votre discussion avec Luc Lavoie là, précédemment, puis on est beaucoup dans l'improvisation. On dirait qu'on planifie peu. Je sais que le premier ministre François Legault souhaite vivement là, que toute cette transformation-là se fasse. J'étais dans un lancement la semaine dernière, puis il a interpellé, et puis ça avait pas vraiment de lien avec son discours, mais il est sorti un peu de ses propos pour interpeller le ministre Kerr pour dire qu'il fallait que ça continue, ce virage numérique-là. Alors qu'on voit qu'il y a une volonté, mais est-ce qu'on brûle des étapes? Est-ce qu'on y va dans l'ordre? Est-ce qu'on a bien réfléchi? Est-ce qu'on a bien appréhendé, finalement, les impacts de tout ça, les pare-feux qui a lieu de mettre en place? Ben, permets-moi d'en douter, là, Yasmine, à voir les craintes qui sont soulevées par la commission. Ben, je suis pas certaine qu'on est allé dans le bon ordre. Là. Et puis, ben, c'est ça, hein, je parlais de structure tantôt, puis de troisième lien, c'était ça aussi, c'est qu'on a promis une infrastructure, mais on a oublié, en fait, de vérifier quel était le besoin, on a oublié d'écouter les experts, alors on est encore une fois là-dedans. Exactement, donc on est encore là-dedans, à ce niveau-là. C'est comme si c'est un gouvernement qui sait pas où il s'en va, puis il fait il prend des décisions qui sont pas trop réfléchies ou un peu à la va-vite. Il y a un peu probablement aussi un mouvement de panique parce qu'on sait que ça va pas bien. On voyait là que il resterait selon les projections de Québec 125 11 députés donc de la CAQ. Donc je peux comprendre qu'il y a une certaine forme de panique qui s'installe, mais je suis pas certaine que c'est la bonne manière de ramener les choses. Pour que ça aille mieux, puis qu'on essaie de reprendre le contrôle, là, la panique, c'est un bien mauvais guide. Là.
Question qui va faire en sorte que je ne serai pas très populaire au bureau d'Éric Kerr, mais se lancer dans la reconnaissance faciale avant un remaniement ministériel, c'est-tu risqué?
Ben écoute, à date, il a échappé à toute forme de remaniement, hein, puis il a quand même été renommé ministre après la dernière élection. Est-ce que là, il y a de quoi être nerveux? Moi, ça ferait longtemps que je le serais à sa place. Mais on voit aussi en contrepartie que M. Legault est souvent très fidèle à ses premiers alliés. M. Kerr, c'est un député adéquiste et a accepté de faire le saut à la CAQ. Alors, je pense qu'il y a tout ça là-dedans aussi. M. Legault est fidèle à ses alliés de la première heure, c'en est un. Mais est-ce que ça va pouvoir durer dans le temps indéfiniment, ça? Ben là, s'il y a une autre ratée avec ce virage numérique-là, puis qu'il fallait qu'il y ait des dérapages avec l'utilisation de la reconnaissance faciale, alors qu'on n'a pas fait les débats qui s'imposaient en amont, donne pas cher de sa peau, là.
Karine Gagnon, merci beaucoup. Karine Gagnon est chroniqueuse politique, Journal de Montréal, Journal de Québec. Reviens plus souvent.
Avec plaisir, merci.
Bye-bye.
Une femme brillante pour un éclairage sur l'actualité. Yasmine Abdel-Fadel.
Un important pont autoroutier de Baltimore sur la côte est des États-Unis s'est effondré tôt mardi matin après avoir été percuté par un porte-container, ce qui a entraîné beaucoup de véhicules qui sont tombés, des personnes aussi, des travailleurs, on le sait, qui étaient sur le pont. Il reste encore 6 personnes qui manquent à l'appel. On en parle avec le capitaine Pascal Desrochers, président de la Corporation des pilotes du Saint-Laurent. Bonjour, capitaine Desrochers.
Bonjour.
Est-ce que quelque chose de la sorte pourrait arriver ici au Québec?
Les chances que ça se produise sont excessivement petites parce que nos infrastructures sont très bien protégées. C'est la différence principale avec le cas qui nous occupe aujourd'hui, la Baltimore. D'ailleurs, lorsque j'ai vu les images ce matin, mais naturellement, mes premières pensées sont allées pour les victimes de cet effondrement-là. Et pour mes collègues pilotes qui sont à bord aussi, c'est un petit milieu, là, le monde maritime. Et puis, je connais des pilotes de Baltimore, alors mes pensées vont aussi pour ces gens-là. Est-ce que ça peut se produire ici des incidents, des pannes de machines principales ou de gouvernail, comme ce qui semble être le cas présentement à Baltimore? On n'est pas immunisé contre ça ici. Par contre, nos infrastructures sont beaucoup mieux protégées.
Mais quand vous dites beaucoup mieux protégées, ça veut dire quoi concrètement? Nous, on le voit pas. Vous le percevez, mais nous, on...
Oui. Lorsque j'ai vu les images ce matin, c'est ce qui m'a frappé en premier lieu, c'est de voir à quel point la proue du navire avait pu s'avancer à proximité. Ben, en fait, à proximité, elle a percuté le pilier. Ici, dans nos eaux de pilotage, ce serait très difficile. Il y a un seul pont au Québec, entre Québec et Montréal, qui a une structure qui s'apparente à la structure de Baltimore, avec des piliers qui sont en eau profonde, comme à Baltimore. Par contre, ces piliers-là ont été protégés en 1988 par des enrochements. Ça avait été établi lors d'une étude dans les années 60, fin des années 70, début 80. Il avait été établi que les piliers du port de Montréal en faisaient, du pont Laviolette, c'est-à-dire, étaient vulnérables et qu'ils devaient être protégés. Et c'est ce qui a été fait en 88. Alors, il y a d'immenses enrochements qui ont été faits. À la base de ces enrochements-là, ça a un rayon jusqu'à 125 mètres là, du pilier, donc c'est considérable. Et ça prévient un navire de pouvoir s'approcher à des distances qui feraient en sorte qu'il pourrait percuter la structure du pont. C'est la différence principale. À Baltimore, c'est ce qui m'a troublé lorsque j'ai vu les images, c'est de voir la proue du navire percuter directement le pilier. Ça m'a surpris que l'infrastructure ne soit pas mieux protégée que ça.
Vous êtes un pilote expérimenté. Mettons-nous quelques instants dans la peau du capitaine de ce bateau-là et on voit les vidéos là où il perd l'électricité, ça part, ça revient. Quels sont les réflexes que vous avez de par votre formation, là, les capitaines, à faire lorsqu'on voit qu'on s'en va vers la catastrophe?
Mais avant de faire cette distinction-là, ce que j'aimerais aussi vous expliquer, c'est la différence entre le capitaine et le pilote.
Ah, ben oui, en commençant par ça.
On va commencer par la base pour vraiment pouvoir établir les rôles de chacun. Le capitaine fait partie de l'équipage, il est capitaine de son navire. Lorsqu'il arrive en eau resserrée, soit un fleuve, une rivière ou un port, il y a toujours un pilote local qui va se joindre au navire pour assurer la conduite sécuritaire du navire. Et ça, c'est notre mission première, nous, d'assurer la sécurité, la protection de la vie humaine, la protection de l'environnement et la protection des infrastructures. C'est ce qui nous anime et on est mandaté par Transport Canada pour aller faire ce travail-là. Donc, nous, on se joint à l'équipage et on va assurer la conduite sécuritaire du navire. Donc, ce sont des pilotes locaux qui sont en charge de la navigation du navire. Et c'était le cas aussi à Baltimore ce matin ou la nuit dernière. Il y avait deux pilotes qui étaient à bord dans ce cas-là. Comme on fait ici aussi, c'est une pratique courante pour les plus gros navires d'avoir toujours deux pilotes à bord pour assurer la sécurité du transit. Alors, les pilotes, qu'est-ce qu'ils ont pu faire lors d'une panne? Bien, on est formés pour ça, nous, pour pouvoir répondre à ces situations d'urgence-là. Mais moins on a d'équipement pour y répondre, moins on est équipé, plus la réponse va être inadéquate ou longue à se manifester. Et dans le cas qui nous occupe à Baltimore, il semble que la panne est arrivée à proximité du pont.
C'est ça.
Donc, il y a un laps de temps très court pour réagir. Alors, ils semblent avoir fait tout ce qui était humainement possible de faire, soit déployer les ancres à l'avant pour ralentir le navire le plus possible. Et avant tout, étant deux pilotes, bien, on peut aussi se séparer le travail effectué. Il y a un des pilotes qui a contacté les autorités pour faire fermer le pont au trafic le plus rapidement possible. C'est probablement ce qui a permis de sauver un grand nombre de vies humaines. Malheureusement, il y en a eu trop quand même, mais ça a été limité puisque le pont semble avoir été fermé à l'avance. Mais ils ont eu un délai très, très court. On parle peut-être de 4 minutes là, pour réagir. C'est excessivement court, mais ils devaient se sentir totalement impuissants parce que lorsque dans un cas comme ils ont eu, là, où il n'y a plus de machine principale, il n'y a plus de gouvernail, il n'y a plus rien, on se sent impuissant. Et là, ben, on va espérer que la structure a été adéquatement protégée. Et malheureusement, ce n'était pas le cas à Baltimore.
C'est tout de même impressionnant de voir finalement à quel point un porte-conteneur que l'on voit passer, tu sais, on le voit des fois sur le fleuve Saint-Laurent, là, quand on longe la Vingtaine notamment. L'impact que ça peut avoir sur une infrastructure stratégique pour une ville. Les pilotes qui montent dans les bateaux qui viennent là pour finalement les faire naviguer sur ces portions de route fluviale, appelons-les comme ça, est-ce qu'ils ont c'est l'expérience du fleuve ou de là où ils travaillent, c'est la connaissance, c'est la formation, en quoi ils ont une meilleure connaissance que le pilote expérimenté qui lui traverse des océans?
Oui, que le capitaine.
Que le capitaine, ah
faut
oui,
faire la
le capitaine,
distinction,
ah ben oui, c'est ça.
C'est important. Ben, c'est un peu comme en médecine, hein, où il y a des généralistes, il y a des médecins spécialistes. Nous, on peut faire le parallèle aussi, c'est qu'à la base, tous les pilotes sur le Saint-Laurent sont capitaines, ont eu une expérience en mer, sur des navires, faisant partie d'équipage. Et lorsqu'il y a des concours qui sont organisés, lorsqu'il y a des emplois de pilotes qui sont disponibles, ces candidats capitaines-là appliquent. Il y a une sélection, un processus de sélection rigoureux qui est effectué. Et par la suite, le capitaine qui est déjà breveté comme capitaine, qui peut avoir de nombreuses années d'expérience, ben lui, on va le prendre et on va lui donner une formation à temps plein pendant 2 ans dans un secteur précis du fleuve. Parce que c'est ça, l'essence même du pilotage, c'est de connaître à fond un secteur particulier du fleuve. Dans mon cas, moi, je suis pilote entre Trois-Rivières et Montréal. Si je voulais devenir pilote dans un autre secteur, je devrais refaire toute ma formation à partir de zéro. Alors, on le prend pendant 2 ans, on le forme. Il est toujours sous la supervision de pilotes brevetés. Il va faire environ tout près de 300 voyages pendant ces 2 années-là pour se familiariser. Et suite à un processus d'examen qui est très rigoureux devant un jury d'examen, son premier brevet de pilotage va lui être décerné, mais seulement pour faire les plus petits navires qui transitent sur le fleuve. Et au fur et à mesure qu'il acquiert de l'expérience, au fil des ans, on va augmenter le tonnage et la longueur des navires qu'il peut piloter, jusqu'à avoir une licence, un brevet qui lui permet de piloter tous les navires, d'être chef pilote sur les plus grands navires. Mais ça, ça prend, à partir du moment où on rentre au pilotage, là, ça va prendre près d'une dizaine d'années, 8 à 10 ans, avant d'atteindre cet échelon-là, plus l'expérience de capitaine. Alors, on peut dire qu'un pilote qui est pleinement breveté sur le fleuve a facilement 18 à 20 années d'expérience de navigation avant de pouvoir faire ça. Donc, c'est un long processus qui est rigoureux.
On peut dire que la personne qui pilotait ce bateau-là, là, qui a foncé dans le pont de Baltimore, là, c'est pas un pioui là, qui vient d'avoir son permis, permis la semaine passée, là.
Absolument pas. C'est un grand navire. C'est pas dans les plus grands navires qui vont à Baltimore. Il y a des navires de plus grande dimension qui procèdent vers Baltimore que celui qui a été impliqué dans l'incident la nuit dernière. Mais c'est certain que les pilotes, c'était 2 pilotes qui devaient être expérimentés. Mais j'ai pas le détail de la formation des pilotes qui est spécifique au port de Baltimore. Ça, je la connais pas à fond. Mais je peux rassurer les gens qu'ici au Canada, la formation est très rigoureuse pour les pilotes.
Est-ce que c'est imaginable de se dire les bateaux de cette taille-là, les navires de cette taille-là ne devraient pas passer sous des infrastructures stratégiques, des infrastructures civiles comme un pont, par exemple?
Mais voyez, le fleuve Saint-Laurent, c'est la horte économique de la province de Québec et de l'Ontario, de l'est du pays, en fait, même du Midwest américain dans une certaine mesure. Alors, c'est impensable. 90% de ce qu'on consomme a transité par un navire. Alors, c'est impensable de ne pas utiliser le fleuve. Ce qu'il faut faire, c'est conserver les moyens de mitigation pour assurer une conduite, une navigation sécuritaire de ces navires-là et protéger adéquatement les infrastructures. Mais c'est vraiment utopique de penser que le fleuve ne pourrait pas être utilisé pour éviter de passer à proximité de structures. L'impact économique est démesuré.
L'impact économique est démesuré, mais aujourd'hui, il y a une crainte. Là, tu sais, le monde qui regarde ça, là, puis ils se disent, ben là, moi, je prends le penchant plein tantôt pour me rendre chez nous, ouais. Là, puis je vais regarder là, sur le fleuve.
C'est pour ça que je prends l'opportunité que vous m'offrez, là, la tribune que vous m'offrez pour rassurer les gens. Puis, ce matin, lorsque j'ai vu ça, je m'en vais vers Trois-Rivières avec mon véhicule, puis je pensais aux gens justement qui traversaient des ponts, et je comprenais parfaitement les gens qui sont pas au courant comment ça fonctionne. Je peux les comprendre d'être nerveux, mais je dois les rassurer. Et c'est le message que je veux dire. Une situation comme on a eu à Baltimore, c'est à peu près impossible que ça se produise ici. Les ponts sont beaucoup mieux protégés. Je prends l'exemple du pont Pierre-Laporte à Québec. Les piliers sont sur la terre ferme à l'extérieur. Donc, pour un navire, d'aller percuter les piliers, c'est impensable. Le pont Jacques-Cartier, lorsqu'on va vers la voie maritime du côté de Longueuil, on passe à proximité des ponts, on passe tout près, mais il y a d'immenses assises en béton qui protègent les piliers. Et on fait ça avec de plus petits navires à vitesse réduite. Alors, même s'il y avait panne, collision, il pourrait pas y avoir d'impact aussi grand sur la structure du pont.
Hey, mais le pont qui me fait peur, moi, c'est le pont Victoria, là. Puis il me fait peur, là, même quand il n'y a pas de bateau en dessous, là, tu sais, tu roules sur l'acier, là, tout le long, tu es comme, OK, quand est-ce que je me retrouve sur l'eau, là?
Mais lui, Il n'y a pas de danger pour nous parce que c'est impossible d'aller percuter où on passe. Le pont Victoria lui passe directement à l'écluse de Saint-Lambert, de part et d'autre de l'écluse. Et puis, c'est impossible pour un navire d'aller toucher cette structure-là. Et c'est un pont-levis, donc il lève pour laisser libre cours au passage des navires. Alors, il n'y a vraiment pas d'enjeu au pont Victoria. Il peut être épeurant pour d'autres gens, mais pour d'autres raisons, parce que bon, c'est une structure qui est différente. Là. Mais
non, mais
au niveau
tu
de la
dis,
circulation...
j'espère qu'il y a un bateau en dessous au cas où si je tombe, le bateau, je vais pouvoir tomber dans le bateau plutôt que dans l'eau.
Mais sur le pont Victoria, on ne passe jamais par-dessus un navire. Non, on passe toujours à l'avant ou à l'arrière du navire. Alors, il n'y a pas d'enjeu.
Capitaine Pascal Desrochers, président de la Corporation des pilotes du Saint-Laurent, grâce à vous, nous allons dormir plus tranquille et traverser les ponts plus tranquilles aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Ça m'a fait plaisir. Bonne fin de journée.
Une main de fer dans un gant de velours. Yasmine Abdel-Fadel.
La maudite éclipse solaire, là, je sais que tout le monde est écœuré d'en entendre parler, puis on envoie-tu les enfants, on n'envoie pas les enfants, l'école est-tu fermée, l'école est-tu ouverte? Tout le monde s'occupe des enfants, puis qu'est-ce que les enfants vont faire, puis ils vont-tu garder leurs lunettes, pas de lunettes, qu'est-ce qu'on fait avec les lunettes, t'as-tu tes lunettes, t'as pas tes lunettes? Mais là, il y a d'autres personnes qui peuvent être touchées par cette éclipse-là. Puis je parle du meilleur ami de l'homme, notamment là, les chiens, les chats, l'animal de compagnie. On fait quoi avec un animal de compagnie pendant l'éclipse solaire? Heureusement, le gouvernement n'a pas grand-chose à faire là-dessus, sinon on serait plus dans l'ambiguïté. C'est pour ça qu'on pose la question à Dr. Evelyne Joubert, vétérinaire. Bonjour, Dr. Joubert.
Bonjour.
L'éclipse solaire, quel effet ça a sur les animaux? Est-ce que nos animaux sont naturellement protégés contre les rayons d'une éclipse solaire?
Ben, nos animaux domestiques, ils ont les mêmes yeux que nous, fait qu'en théorie, ils sont pas nécessairement protégés.
Ouais, ils portent pas de lunettes.
Non. Ils sont beaucoup moins téméraires que nous. T'sais, ils vont pas se dire « mon Dieu », ou ils sont moins curieux aussi. Ils ont pas tendance à regarder le ciel et les étoiles et à faire de l'astronomie, à s'interroger sur les phénomènes planétaires. Là. Généralement, ils regardent pas vraiment ça, le ciel comme tel. Fait que déjà, c'est pas, ils ont pas l'intérêt de regarder. Nous, les humains, on va le regarder parce que c'est un événement vraiment qu'on va voir une fois dans notre vie. Mais eux, franchement... ils vont plus être stressés si nous, on est stressés là, comme tel, que de se dire c'est un phénomène astronomique à voir. Là.
Mais on va dire qu'un chat, par exemple, là, on sait comment les chats, ben ça aime regarder la fenêtre pendant qu'on n'est pas là, puis surveiller le voisin, puis le postier. Mais là, il est intéressé par cette boule-là, cette boule noire qui est en train de se former. Quelles seraient les conséquences, par exemple, pour un chat ou un chien si jamais... on a un chat spécial qui aime regarder le soleil ou la lune.
Ben, les conséquences seraient les mêmes. Là. Au niveau de leur vision, ils ont quand même les structures visuelles qui sont vraiment semblables aux nôtres. Okay. Donc, ils pourraient aussi avoir des lésions au niveau de la rétine, là, de brûlures, qu'on pourrait dire, là, par le soleil. Ceci étant dit, on ne va pas se mettre à paniquer là, à cause de tout ça, mais des gens qui seraient vraiment inquiets que leur animal est toujours dans la fenêtre à regarder dehors ou autre, on peut peut-être s'arranger cette journée-là ou ce moment-là de l'après-midi pour avoir les rideaux fermés peut-être ou de les mettre dans une pièce où ce qu'il y a moins accès là, à regarder dehors. Mais franchement, c'est pas quelque chose qui est une inquiétude si majeure que ça pour nos animaux de compagnie. Ils vont ressentir un petit peu moins d'effervescence là, que nous, les humains, ou que les animaux de la faune, t'sais, qui, eux, vont vraiment... leur journée va être un petit peu spéciale là, à cause de cette éclipse, quand même en plein milieu de l'après-midi.
Ben parlons-en, le système là, circadien, là, c'est la détection du jour ou de la nuit. Nous, on est capable de comprendre que c'est une éclipse solaire, que dans quelques minutes, ça va être passé, puis on retourne à nos activités diurnes. Qu'en est-il des animaux qui ont des activités nocturnes? Est-ce qu'on pourrait les voir finalement se réveiller et commencer ces activités-là alors que c'est momentané?
Ça serait quand même peu probable parce que, comme tu dis, Yasmine, c'est pas très très long quand même, tu sais, qu'on a une période vraiment d'obscurité totale, là. Ce qui est plus probable, c'est que nos animaux diurnes vont se dire, mais coudonc, ben c'est le soir, faut que je fasse ma petite routine du dodo, là. Les poules vont peut-être s'approcher de leur poulailler ou même rentrer à l'intérieur du poulailler s'il est ouvert, les animaux qui seraient dehors au champ ou même, tu sais, les animaux de la faune vont peut-être retrouver leur nid, là, en se disant, mais c'est le temps de se coucher, puis là, ça va durer pas très longtemps quand même, cette période d'obscurité totale, ils vont revenir après ça là, à la normale. Fait qu'ils auront peut-être une journée légèrement perturbée, mais faut se rappeler, les animaux de la faune, là, ils ont une vie vraiment pas mal plus palpitante que nos animaux domestiques. Ils ont des stress au quotidien, si c'est pas à toutes les heures. Donc, ils vont quand même être capables de bien dealer, si je peux dire, avec la situation, là.
On apprend que le zoo de Granby, tu sais, ils veulent surveiller comment, quel impact pourrait avoir une éclipse sur le comportement des animaux. Bon, nous, on vit l'éclipse ici pour la première fois depuis plusieurs générations, puis la prochaine fois, ça va être dans plus de 150 ans. Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites sur l'impact des éclipses, qu'elles soient partielles ou totales, sur la vie des animaux et des oiseaux en particulier?
Pas d'études que je connaisse, je me suis pas beaucoup oui. Intéressée là à ça comme tel, ce qui se passe surtout dans les zoos, là, c'est pas nécessairement mon domaine de compétence. Il y a peut-être des études qui ont été faites. En même temps, il faut comprendre que c'est pas des situations qui arrivent si fréquemment non plus. Donc les ressources à monopoliser pour faire ce genre d'études, quand ça arrive une fois de temps en temps sur la planète ici et là, du moins je suis pas au courant. S'il y a des études qui parlent des effets là, sur nos animaux.
On est dans une drôle de période où, évidemment, c'est un printemps qui est en dentis, là, tu sais, il fait 15 degrés, il fait moins 15 degrés, puis une journée ne ressemble pas à l'autre. Mais là, on nous dit que pendant cette éclipse-là, on va perdre près de 10 degrés Celsius très rapidement à cause, le manque de soleil. Est-ce qu'on pourrait voir une réaction chez les animaux, ceux qui sont à l'extérieur particulièrement, parce que ceux à l'intérieur sont dans un habitat qui est protégé? Est-ce qu'on pourrait voir une réaction là-dessus?
Je pense que plus, l'ensoleillement, c'est plus ça qui va peut-être venir les surprendre ou les perturber. Il faut pas oublier qu'à chaque nuit, le mercure descend également d'une manière normale là, sous notre cycle de 24 heures. Donc, c'est quand même normal que ça va chuter un peu. C'est sûr que ça va être plus vite que d'habitude, par contre. Je crois que tant l'effet de température que probablement plus l'effet là, de perdre la luminosité va faire en sorte que nos animaux vont aller tous se coller dans leur nid. Ils vont aller garder leur chaleur corporelle collée sur leur ami écureuil, si on parle des écureuils ou autres. Donc, ce sera pas quelque chose de trop perturbant pour eux. Comme je vous dis, oui, peut-être qu'ils vont avoir une journée un peu différente. Là. Peut-être qu'au nid, ce soir-là, ils vont parler. T'sais, pendant mangeant leur souper, ils vont dire « Hey, c'était trop drôle de journée. » Mais pour vrai, ils ont tellement d'autres choses à s'occuper. Ils vont traverser ça comme des grands.
Ben, on dirait qu'ils traversent, les animaux traversent mieux ça que les humains, parce que nous, on capote, là. On envoie-tu nos enfants? On les envoie pas. L'école, le ministère, le ministre, les communiqués de presse, les directives de la santé publique. On devrait prendre exemple sur les animaux qui ont un pouvoir de résilience beaucoup plus grand qu'une société riche que nous sommes. Docteur Evelyne Joubert, vétérinaire, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne éclipse. C'est assez particulier de voir à quel point on capote cette éclipse là. Les boys, les girls, ça va durer quelques minutes, puis ça sera chose du passé. Puis tu sais quoi? Heureusement qu'on n'a pas une prochaine avant 150 ans. Je veux pas revivre la même éclipse là, médiatique, puis le même affolement collectif là de sitôt. Heureusement que la prochaine est dans 150 ans. Moi, je vais me rappeler pas seulement de l'éclipse solaire, je vais me rappeler de la folie sociale, sociétale par rapport à l'éclipse solaire. Là, je me demande si les d'autres pays qui ont vécu ça ont eu cette crise nationale là, que l'on est en train de vivre. C'est assez particulier de nous voir aller pour un événement prévu plusieurs mois à l'avance, dont on connaît l'existence, pour lequel on pourrait se préparer, se prémunir, faire de la pédagogie. Mais non, nous on n'aime pas ça, nous on aime le drame. On aime être toujours dernière minute et de capoter. C'est donc tout pour moi aujourd'hui. Merci à toute l'équipe de recherche, de mise en onde, aux invités et aux chroniqueurs. Je vous retrouve très bientôt pour un autre épisode sur Cube Radio.